Jean Madeline, Luce Magali, la carriole sautait sur les cailloux, les grelots du cheval de Camargue sonnaient, Milou restait silencieux. « Tu ne dis rien, frérot !» fit Éloi. C'est Éloi, le fils du père Anselme, du mât de la mère Dieu. C'était un grand garçon, brun, robuste, aux yeux décidés. Il était un peu protecteur pour le petit Milou, plus frêle, un peu demoiselle, parce qu'il était timide et doux. Ils étaient camarades d'enfance, nés le même avril, et leur mère, Marc, était très proche. Gamins, ils s'étaient traînés dans la même poussière, avaient dégringolé les petites collines de thym et de lavande. Ils avaient fait leur temps ensemble dans l'artillerie à Nîmes. Ils en étaient revenus depuis peu, et leur affection était grande. « Hé, frérot, à quoi penses-tu ?» Il rentrait d'Arles et se hâtait, car le soir tombait sur les cyprès. Milou regardait devant lui des choses. « Oh, je le sais bien à quoi tu penses !» Milou secoua son rêve. « Tu le sais, mais qu'est-ce que tu sais ?»« C'est bon !» Éloi toucha du bout du fouet le petit cheval qui partit au galop. Les roues craquèrent. « Mais quoi, qu'est-ce que tu veux dire ?»« Ben, je dis ce que je sais !» Elle te tient donc bien, cette fille. Quelle fille? Je ne comprends pas. Il n'y a pas de fille en moi. Tais-toi, tu penses à Luce Magali. La main de Milou trembla. Dis pas ça, Éloi. Ce ne sont pas des choses vraies. Cette fille de Saint-Rémy, jamais je ne me suis langui pour elle. Les femmes, c'est pas mon affaire. Tu sais bien, mon camarade. Des fois, un hasard, ouf, tu les connais, mes aventures. À Nîmes, la blanchisseuse Irma, dans la rue Notre-Dame. C'était drôle, hein? Elle aurait fait sauter une omelette rien qu'en la regardant. Eh bien non, non, pas ça, jamais. Histoire de passer le temps, avant la retraite, les soirs qu'il pleuvait. Je l'embrassais, ça sentait bon. Mais pour l'amour, je suis de la classe. Une autre fois à Beaucaire, au temps de la foire. Oh, j'en connus, oh, je ne sais plus dans son nom seulement. Et quant à ce qui est à Luce Magali, tu ne l'as jamais vue. Une belle plante, ça, oui. Plaisante, bravette. Oh, si t'es d'aller avec elle froisser le romarin, ça va, je suis de semaine. Mais d'en avoir le sang empoisonné, oh non, non, il n'y a pas la vie. Les femmes, vois-tu, ça me semble ceci, des marais cachés derrière des belles feuilles. Ça lui, ça vous aguiche, et si par malheur on s'approche, on est pris de la mauvaise fièvre. Alors on est perdu, on en meurt. La route s'allongeait entre les roseaux. Au large de la plaine, des mâts s'isolaient, éparpillés comme par un coup de mistral. Des petites lumières s'allumaient derrière les pins. C'était l'heure du souper et les chants étaient graves. Cependant, Milou était retombé à un silence. Éloi voulut détourner cette songerie. « Dis donc, frérot, l'idée que j'ai, si on allait demain matin aux étangs, je verrais qu'il y a un passage de flamand. C'est Nazaire qui me l'a dit, le grand Nazaire du bas des Tamaris. » La carriole s'arrêta. Des rails traversaient la route, et la barrière était fermée. Les fils du télégraphe rayaient le couchant rouge de longues lignes noires qui semblaient perdues très haut dans l'espace. Le train arriva, mugissant, rapide comme un taureau sauvage. L'express de Nice. Le petit cheval de Camargue pointait les oreilles. Dans le soir apaisé, ce fut une secousse, la courte traînée lumineuse des glaces éclairées, dont il ne restait déjà plus qu'une lueur rouge, peu à peu disparue, à l'horizon des rails. Éloi suivit un moment de la pensée ces êtres qui venaient de passer devant lui, de le frôler, invisible, et qui, malgré ce contact rapide, devaient lui demeurer à jamais inconnus, et qu'une vie fiévreuse emportait à toute vapeur vers de mobiles horizons. Puis il regarda autour de lui. C'était le paysage familier, calme, nuancé, seulement, suivant les heures, maintenant violet, imprégné d'ombre lente. La voix était en retombée, silencieuse, morte, après cet écrasement. Le crépuscule sentait la farigoule. Il dit simplement « C'est des riches !» Puis il reprit « C'est flamand, c'est des bohémiens, ça n'a pas de pays, oh, une race maudite, d'où viennent-ils, où vont-ils, avec leurs costumes de païens ? Ça tombe chez nous, ça s'installe, 2 jours, 3 jours, ils restent là, campés. Les mâles vont à la chasse, à la pêche, les femelles demeurent à faire la cuisine. Puis un matin, un catholique arrive, vous tire dans le tas. Et ça s'envole, toutes ces plumes roses. C'est un joli coup de fusil. » Une allée de cyprès s'ouvrait. Dans le soir, c'était une appréhension du mystère, l'inquiétude de quelques cimetières invisibles et proches. Mais par-dessus les arbres, une fumée montait, rassurante. Un chien, quelque part, aboyait à la bienvenue. Le petit cheval de Camargue allongeait le trot, devinant l'écurie. « Oh, nous arrivons, » dit Éloi. « Ça sent la soupe. Eh, frérot, eh bien, frérot !» Mais Filou n'entendait pas. Il pensait tout le temps à Luce Magali. Voilà 3 mois, il était entré un jour chez sa grand, du mât des jujubes, pour mettre un baiser dans ses rides. La vieille n'était pas là. Mais il trouva dans la cuisine une grande belle fille, avec la coiffe du pays de Saint-Rémy et un fichu sur les épaules. Elle rangeait des pains dans la panière, et son bras s'allongeait en un joli geste, et toute sa grâce légère ondulait. Elle se retourna à demi, la tête penchée sur l'épaule, et sourit. « Ah, je gage que vous êtes Milou, du mât d'Antibes, que vous venez voir votre grand... » Il la regarda, surpris et ravi. « Ah, vous me connaissez ?»« Oh, elle m'a tant parlé de vous, la vieille !» Elle sortit d'une bouteille, un verre, un morceau de fougasse. « Asseyez-vous, espérez une minute, elle va rentrer, et est contente. » Milou s'assit et mangea lentement en la regardant. « Alors comme ça, vous revenez des artilleurs ?» Il répondit « Oui, émerveillé, comme elle savait bien tout. » Voyant qu'elle s'intéressait, il lui raconta les histoires du régiment, des anecdotes qui tournaient toujours autour des mêmes faits insignifiants, des mêmes mots de chambrée, comme on en lit sur le guérite, comme quoi il était d'attaque pour astiquer et friser sa panache, et que... la polygone, c'était un tour fourbi, et qu'il avait à la confiance, et qu'il se la cassait, et que c'était pas malheureux la classe. Elle s'était assise au jour de la fenêtre et écoutait, avec une approbation de la tête et les yeux souriants. Enfin, il pensa lui demander son nom. Luce Magali. Il lui sembla qu'une volée d'oiseaux s'éparpillait dans la cuisine. « Et qu'est-ce que vous faites chez Lagrand ?»« Ben, je suis venu l'aider à faire ses maniants. » Milou s'engourdissait peu à peu sous ce charme. Comme elle sentait bon la cuisine de Lagrand. Elle sentait les herbes sèches, la marjolaine, les andouilles qui pendaient aux poutres du plafond. Et surtout, elle sentait cette jeunesse dont le sourire ouvrait les dents blanches et friandes comme des dragées de baptême. Quand la vieille entra, Milou lui dit « Margot, ça fait du temps qu'on ne s'est vu. Je viens rester 8 jours chez vous pour vous aider à faire vos magnans. » D'abord, il ne s'en était pas aperçu. Il avait gardé le souvenir de 8 jours de lumière. Il croyait que c'était le soleil sur les mûriers où il était monté cueillir la feuille, et la lune qui faisait mouvoir leurs silhouettes proches les soirs quand ils allaient ensemble aux airs. Mais cette lumière, ce n'était ni le soleil sur les mûriers, ni la lune mouvante sur les airs. Elle venait des yeux de Luce Magali. Quand il revint de chez sa grand, Milou ne parlait que d'elle. De tant et tant en entendre, le camarade Éloi comprit, bien que ses paroles sentissent l'herbe d'amour. Mais Milou lui-même ne le savait pas. Et le soir qu'Éloi lui dit brutalement, « Mais tu l'aimes !» Ce fut une révélation pour l'innocent. De bonne foi, il avait répondu non, car ce travail était demeuré inconscient. Le regard avait coulé dans ses veines lentement et mystérieusement, et il reçut en pleine poitrine le choc de son secret. Il resta bouleversé, comme s'il eût appris un malheur. Il se répétait à lui-même, « Mais c'est pas vrai, mais pas vrai !» Mais il sentait bien qu'il mentait. Alors il enferma son mal en lui. Il voulut le cacher à tous, même à Éloi, le frérot, qu'il avait presque deviné. De le lui avouer à elle, oh, jamais il n'y pensa, car il était timide et un peu naïf. Les femmes l'effrayaient, surtout celles-là, à cause de ce vague affinement, comme en ont les filles des villes. Mais rien n'y pouvait faire, le sort était sur lui. Le petit Milou l'avait, la mauvaise fièvre. Alors, on en est perdu, on en meurt. Ce fut vers la mi-février qu'Éloi alla au mariage de son cousin Laurent à Saint-Rémy. Milou s'attrista de n'être pas invité quand il sut que Luce Magali devait être de la noce. « Enfin, je vais pourtant la voir, ta Luce Magali. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise ?» Milou s'épouvanta. « Oh, rien, ne dis rien !» Puis, se ravisant, « Tout de même, des compliments. » Le matin, Éloi attelait la carriole. Il portait ses vêtements de la messe. Le petit cheval avait les rubans au cocarde. Milou l'accompagna un bout de route. C'était un joli matin sec. Du grésil craquait sur les branches, en chemin. « Bon alors, c'est convenu, je lui dirai que tu as pris un coup de soleil en faisant la feuille de la grand, et que tu ne dors plus, que tu ne manges plus, que te voilà possédé. C'est bien ça, frérot. Tais-toi !» supplia Milou. Et que les magnons ont mangé ton cœur. Tais-toi, tais-toi. Éloi lâcha un rire et lui tapa sur l'épaule. Allons, grand bête, calme-toi. Bouche close, c'est bon. Il sortit une pipe, l'alluma. Puis, avec son assurance de grand garçon vigoureux, sain de tête, il conclut. « Les jupes, vois-tu, frérot ? Oh, tout ça vaut pas une bonne pipe !» Le lendemain soir, comme Milou sortait sur la porte du mât, il aperçut une ombre dans la cour, contre la citerne. La nuit était tombée, une nuit de lune blanche et glacée. Les silhouettes étaient rigides dans l'engourdissement du froid. Les reflets même semblaient gelés. Milou cria « Qui est là ?» L'ombre resta immobile, comme gelée aussi. « Hé l'homme, qu'est-ce que vous voulez ? » L'ombre ne remua pas. Mais il y avait pourtant quelqu'un. Quelque rôdeur, un poussiéreux, venant demander l'hospitalité pour la nuit. Milou, inquiet, s'approcha. Ses pas claquaient sur la terre durcie. L'ombre le regardait venir. Un homme était là, en effet. Milou le saisit à l'épaule. Aussitôt, il cria « Mais bon Dieu, mais c'est toi, frérot !» Éloi leva vers lui des yeux d'angoisse. Puis il dit, très bas, comme en rêve, « J'ai hâte de parler, Milou. » Milou fit « Ah !» Il eut un grand coup brusque au cœur. « Ne restons pas là, le froid gicle, viens dans la cuisine. »« Non, ici, je n'ai pas froid, écoute. » Sa voix était tremblante et grave. Milou sentit passer un malheur. « Mais parle !»« Bien, je reviens de la noce. J'ai vu Luce Magali. » Milou frissonna. Ce nom confirma son angoisse. Il avait bien deviné que c'était là le mal. Il essaya de prendre un ton léger, avec un vague espoir, de détourner, au moins de retarder, sa misère. « Eh bien, qu'est-ce que tu en dis ? Des yeux à faire tourner un moulin d'huile ?» Mais ces mots ne prolongèrent aucune vibration. On eût dit que le sang s'en fût gelé dans la rigidité de l'air. Éloi n'avait pas paru les entendre. Il y eut un moment de silence, pendant lequel Milou sentit le malheur s'imposer, emplir l'espace. Il courait le long des branches, tombait des arbres, se précisait dans le reflet de lune accroché au bord de la citerne. Il enveloppait de toutes parts, l'étreignait dans l'immobilité implacable des choses. Alors Milou comprit que les paroles étaient fatales et il attendit son destin. « Milou, dit Éloi, voici pourquoi je suis venu. Tu m'as dit bien des fois que Luce Magali, tu ne l'aimais pas. Hier encore, pendant la route, pendant que je voulais te taquiner, c'était vrai, n'est-ce pas ?
Vrai, oui.
Et aujourd'hui, tu le répètes ? Tu ne te languis pas d'elle, sûrement. Mais aujourd'hui, comme autrefois, je ne regarde pas le chemin de ses lèvres. Parle-moi franchement, frérot. Alors quand j'avais cru, je m'étais trompé.
Oui, tu t'étais trompé.
Milou suait à grosses gouttes. Chacun de ses mots saignait. Il s'arrachait le cœur par morceaux et les jetait palpitant dans la nuit. Merci, dit Éloi. C'est cela que je voulais te demander. Maintenant je m'en retourne. Bonsoir. Il s'en allait. Milou le retint, le regarda.
« Ainsi tu l'as vu et tu l'aimes ?»«
Mais non, bon,
mais ne mens pas, tu l'aimes. »
Éloi baissa la tête. « Eh ben oui, c'est vrai. Du premier coup que je l'ai vu, j'ai senti qu'elle me jetait le charme. Oh, j'ai résisté, je voulais pas. J'ai eu bien mal. » Et maintenant, c'est fini, son regard est sur moi. Milou le retenait toujours. Il avait quelque chose qui lui brûlait les lèvres et qu'il n'osait pas dire. À la fin, il se décida. Et elle, il était blême. Elle, je sais pas, je crois bien, peut-être. Alors Milou comprit qu'il s'était dit les paroles. Il lui prit la main, celle d'Éloi brûlait. Va, frérot, aime-la bien, comme elle t'aime. Et pour ce qui est de moi, oh, ne garde point l'angoisse. Devant la bonne mère, je te le jure, je n'ai jamais pensé à Luce Magali. Et il sentit au même moment qu'il ne l'avait jamais tant aimé. C'est en vain depuis cette nuit.
que le petit Milou cherchait à voir son camarade Éloi. Celui-ci l'évitait, et cela était très visible. Plusieurs fois, Milou était allé chez le frérot, au mât de la mère Dieu. Les valets lui répondirent « Oh, le maître n'est pas là !» Un jour, il l'aperçut, qui se cachait. Mais est-ce qu'Éloi en avait peur du petit Milou ? Craignait-il que le frérot vint lui redemander ce qu'il lui avait donné, lui dire « Tu sais, c'est pas vrai, j'ai menti !» Et s'enfuyait-il ainsi pour le cacher, pour le garder, le mot qu'il avait emporté par cette nuit de lune ? Ou bien n'était-ce pas plutôt la conscience que ce mot était tout saignant, portant encore des lambeaux du cœur bravement arrachés, et que la présence du sacrifié rendait en lui un mauvais remords. Par des hasards, ils se rencontraient à des tournants de route. Quand il n'était pas possible de se dérober, ils s'approchaient. Ils causaient quelques minutes avec une hâte de se détacher. Mais leurs mains restaient étrangères. Leurs pensées n'étaient plus communes. Il y avait entre eux quelque chose qui les gênait, qui les éloignait, les frérots. Milou souffrait de cette méfiance que son âme simple et bonne ne comprenait guère. Mais il s'enfermait, lui aussi, dans l'orgueil douloureux de son silence. Il savait qu'Éloi allait souvent à Saint-Rémy pour la voir. En août, les femmes s'occupent tout le jour à la magnanerie. Le soir, elles s'assoient à la fraîcheur devant les portes. Luce Magali, l'été suivant, était revenue au mât des jujubes. Quand Milou, passant par là, voyait le pigeonnier par-dessus les cyprès, il faisait un détour. Mais son cœur entrait un moment chez Lagrand. Ce furent pour les amoureux les belles soirées d'enlacement le long des chemins. Vers 7 heures, la vieille Grand allait faire un dernier tour à la magnanerie. Les vers repus dormaient sur la feuille. Alors elle descendait, s'asseyait dans la grande cheminée, serrait ses pauvres jambes larges et prenait son tricot, car ses doigts ne savaient pas demeurer inactifs. Mais bientôt, sa tête dodelinait, se penchait, tombait sur le tricot, et elle s'endormait en même temps que ses manias. À ce moment, la porte s'ouvrait, se fermait doucement, et Luce Magali s'en allait derrière les cyprès. Depuis qu'il savait qu'elle était là, tout près de lui, et qu'Éloi venait la retrouver tous les soirs, le petit Milou sentit son mal grandir jusqu'au martyre. Il souffrit les 7 douleurs de notre Seigneur. Ses pieds saignèrent aux ronces du calvaire, et ses lèvres se desséchèrent sur l'éponge imbibée de vinaigre. Ah, celui-là, cet Éloi! Il n'avait pas boudé contre son cœur. Il avait su regarder la flamme de son amour en face. C'était un résolu, un fort. C'est un mauvais mal d'être aussi hésitant et timide. Mais est-ce qu'il n'avait pas été fort, lui aussi, le petit Milou? Est-ce qu'il n'avait pas fait un acte de grand courage et de brave renoncement quand il avait menti pour que l'autre pût l'aimer à son aise, la belle chatte, et que ses baisers ne fussent pas salis par le mauvais goût du remords? Un jour, il s'anéantissait dans le travail. La poitrine nue, courbée sur les gerbes, il besognait à la moisson. Et son mâle dormait sous le soleil. Mais quand les ombres s'allongeaient et que les cigales commençaient à s'engourdir, il se disait « Oh, c'est l'heure, il l'attend, elle va le rejoindre ». Alors revenait la sueur de sa lente agonie, et il s'en allait courir à travers la campagne, comme le font les innocents la nuit. Un soir, qu'il rôdait ainsi dans les champs, il entendit des voix. Un couple s'approchait. Il s'arrêta au bord du chemin, dans l'ombre, et attendit. Ils avançaient en une marche lente de bonheur. Deux ombres de tendresse, elle penchait sur son épaule. L'homme devait lui dire des mots qui chatouillent. Elle riait. Ils passèrent. Ils ne le virent pas. Lui les avait reconnus tout de suite. Il resta là, pourtant, les regardant marcher. Son rire s'en allait sur le chemin. Alors Milou sentit son cœur se tordre dans sa poitrine. Ce fut une souffrance atroce. Il poussa un cri de bête blessée et se sauva dans la nuit comme un gueux. Et ce fut un soir, en rentrant de la route d'amour, qu'Éloi tomba malade. Un mauvais froid qu'il avait pris dans le brouillard. Il dit « Bon, une piqûre de moustique !» Et le lendemain, il voulut se relever, car c'était un temps de grand travail. Mais dans la matinée, il eut un éblouissement. Il dut s'aller coucher avec la fièvre. Et la vieille servante Audiberthe se dépêcha de faire chauffer des tisanes de feuilles d'oranger et de tilleul. Cette vieille Audiberthe, elle ressemblait à la grand-mère de Milou. Comme elles se ressemblent toutes, les vieilles femmes de là-bas, avec leurs peaux ridées, leurs mains sèches, et ces robes de deuil qu'elles prennent vers l'approche de la cinquantaine et qu'elles ne quittent plus jamais. Mais sa figure n'avait pas la tendresse souriante et bonne des vieilles femmes qui ont été mères. Elle avait les traits un peu durs de celles qui sont restées filles. Voilà plus de 50 ans qu'elle habitait le mât de la mère Dieu. Quand la maîtresse était morte, elle avait pris la direction du ménage et soigné les hommes, le père Anselme et le petit Éloi. Et depuis, elle s'occupait de tout. Elle faisait la soupe pour les valets, et la leur servait, toute fumante, quand ils rentraient des champs. Elle préparait les confitures, les jambons, les andouilles, et attachait les figues dans des sarceaux pour les faire sécher devant la porte contre le mur de soleil. Et c'était elle aussi qui, après les lessives, empilait les draps propres, parfumés de brise de thym, dans les grandes armoires. Et maintenant que le petit était malade, on ne voyait plus sa coiffe noire trotter toute la journée. Elle était là-haut, à le soigner. Quand, un matin, en entrant dans la chambre, elle l'entendit qui déraisonnait. Elle mit ses deux mains sur sa coiffe et dit « mon Dieu, quel malheur !» Il avait le délire. Il disait des choses effrayantes, que Luce Magali et Milou voulaient l'assassiner, que des maniants mangeaient son cœur et riaient entre eux en chantant « Il est tendre, ah ah, il est tendre, ah ah !» Et puis des paroles d'amour si douces que la vieille Audiberthe s'essuyait les yeux avec le coin de son tablier. Et surtout ces deux noms, Luce Magali, Milou, revenaient toujours dans sa fièvre. Si bien qu'Audiberthe lui demanda « Mais veux-tu le voir, ton ami Milou ?» Il est venu souvent pour des nouvelles, je le ferai monter. » Éloi se dressa sur son lit, sueur de terreur. « Non, 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 qu'il s'en aille. Ah, oh, il me brûle. » Ses dents claquaient, ses bras tendus s'agitaient avec le geste de repousser quelqu'un. « Va-t'en, va-t'en. Mais fais-le donc partir, dit Berthe. Tu vois bien qu'il me brûle. » Devant cette crise violente, la vieille servante resta épouvantée. Elle ne pouvait rien y comprendre. Elle ne faisait que répéter « Quel malheur, mon Dieu, quel malheur !» Et elle se signait. Les premiers temps, le père Anselme montait voir le petit. Mais devant ses coups de folie, lui aussi demeurait sans parole. Et de voir son enfant comme ça, vite, il redescendait effrayé, ses galoches craquant sur les marches de bois. Bientôt, il n'osa plus monter. Il restait en bas, dans la cuisine, épluchant de longs bâtons d'osier pour avoir quelque chose à tordre dans ses doigts, pour occuper son inquiétude. Peu à peu, cette grosse fièvre tomba. Maintenant qu'Éloi était calme, cette erreur qu'il avait eue dans le délire se précisèrent. Le sentiment qui les avait causés prit sa véritable forme. Et c'était bien vrai que quelque chose le brûlait. Chaque jour, la convalescence s'accentuait. Les volets s'ouvrirent, puis la fenêtre, laissant passer des branches de vigne grimpantes où s'enlaçaient des roses pâles. Des moustiques invisibles faisaient remuer l'air tiède. C'était un automne très beau aux vieillards et aux convalescents. Éloi revenait à la douleur sœur de vivre. Mais le mal de son cœur grandissait. Puis il put descendre dans la cour aux heures chaudes. Audibert le soutenait, se faisait asseoir sur un banc, au soleil du mur, avec des coussins derrière le dos. Trempé dans la chaleur, il allongeait ses mains maigries vers la lumière, comme pour la tirer vers lui, pour s'en couvrir. Le père Anselme avait abandonné ses bâtons d'osier. Il s'asseyait près du petit, fumait sa pipe, sans une parole, sans un geste, ne levant les bras que pour chasser les mouches qui se posaient sur sa figure. Et un soir vint, qu'Éloi n'eut plus la force afin de tenir son tourment. Tout le monde dormait dans le mât. Audibert même, après la ronde coutumière, était monté se coucher. L'horloge en bas sonnait 9 heures. Éloi se leva et sortit. Devant lui, c'était la nuit où le chemin s'enfonçait à travers les champs immobiles. Des lignes rigides de cyprès augmentaient l'angoisse de l'ombre. La fraîcheur le surprit. Mais il se raidit, pensant, oh, « Il faut que j'y arrive, il faut que je la voie. » Alors il essaya de courir pour tromper sa grande faiblesse. Mais une sueur froide l'envahit. Il dut s'arrêter à bout de force. Une vieille porte romaine dressait ses ruines au bord du chemin dans une floraison de lauriers roses. Il s'assit là, appuyé aux pierres, et regarda autour de lui. Le silence était absolu. La nuit implacable l'isolait. Elle le serrait de tous côtés, l'absorbait peu à peu, et bientôt elle rentra en lui. Et il s'abandonna lentement. Tout d'un coup, il revint de là-bas, des pays du mystère, et il se demanda « Mais où suis-je? Mais pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je fais là, cette heure ?» Il chercha, aux vagues de sa pensée, tâchant de rattacher les fils cassés. Brusquement, une douleur aiguë entra dans sa chair. « Ah oui, Luce Magali !» Il se dressa d'une secousse, regarda les ruines, puis la nuit, afin de s'orienter. « C'est par là, le mât des jujubes n'est pas 10 minutes. J'y arriverai bien, quand je serai en traînant sur les genoux. » Et résolument, il s'enfonça dans l'ombre. Éloi marchait automatiquement avec une raideur de somnambule. Toujours des cyprès. La fièvre l'inondait de sueur. Il pensa, « Oh, comme il fait chaud !» Et il déboutonna sa veste. Il passa une main sur la brûlure de son front. Son chapeau tomba. Mais il n'eut pas le courage de le ramasser. Il continua de marcher. Mais cet homme battait, ses jambes fléchissaient. Bientôt, ses yeux chavirèrent et il s'affaissa dans la poussière du chemin. Des cris, des lumières courant dans la nuit, d'un vieil Audibert affolé avec sa coiffe de travers, et le petit, trouvé sur la route, évanoui, avec un peu de sang au bord des lèvres. Puis la marche lente des hommes qui le rapportaient, précédée de lanternes. Hé, Milou ! Milou, qui revenait des champs, se retourna. C'était le grand Nazaire du clan des Tamaris. Il conduisait un char de foin. « Il y a de la peine au bras de la mère Dieu, j'y suis passé ce matin, et loi est au plus mal. » Milou fut immobilisé par un coup de douleur. « Comment ? Mais je suis allé voir il y a quelques jours, il allait bien, il se levait. »« Oui, c'était fini, il était comme guéri. Mais il s'est sauvé l'autre nuit, toujours pour cette Luce Magali. » Ça l'a pas quitté une minute et il a repris le mal. Maintenant, il leva son fouet et la phrase resta perdue dans l'air. S'y balança dans l'incertitude des extrêmes angoisses. Milou demeurait silencieux. Sa peine qu'on venait de remuer remontait. Alors, tu crois qu'il ne reviendra pas? Oh, c'est mon idée. Pourtant, je l'ai vu ce matin. Oh, il a toute sa connaissance. Milou sursauta. Tu l'as vu? Oui, ce matin. Mais comment? Mais j'y suis allé bien des fois. Jamais on n'a voulu me laisser monter dans sa chambre. Oh, mais puisqu'on peut le voir, j'y vais. Il regarda le soleil. Oh, il est 4 heures, j'ai le temps. Mon pauvre frérot. « Oh, te revoir, Nazaire, à te revoir !» Nazaire l'arrêta. « Non, n'y va pas, Milou. »« Mais pourquoi ?»« N'y va pas, tu ne le verras pas. » Milou le regarda dans la figure. Un peu de colère lui montait. « Je ne le verrai pas, mon frérot, je ne le verrai pas !» Et tu le vois, et tout le monde le voit. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Nazaire ? L'autre balança son fouet. Oh, c'est des choses. Alors, il faut parler, je veux que tu parles. Ne te fâche pas, Milou. Il y a des choses entre vous. Éloi m'a dit ce matin. Milou, je veux pas le voir, ça me ferait trop de mal. Toi, les autres, venez, mais pas lui. « Mais pourquoi, mon Dieu, pourquoi ?»« Ben, toujours cette fille, il pense qu'à elle. Il dit que tu l'aimes, qu'il le sait bien, qu'il en est sûr. Et il croit que pendant qu'il est là, sans pouvoir bouger de son lit, elle te trompe avec toi. Et ça le ronge, ça le tue. C'est pour ça qu'il s'est levé l'autre nuit. Il est jaloux de toi, voilà. » Le petit Milou leva vers le ciel ses 2 bras de révolte. Jaloux de lui, du crucifié ! Il se mit à courir après le coup de fouet de ce qu'il venait d'apprendre. Il arriva bientôt au mât de la mère Dieu. La cour était morne. Seulement un petit bruit près de la porte. C'étaient des femmes qui pleuraient. Milou entra dans la cuisine. Le père Anselme était assis près de la cheminée, le dos tourné. Maintenant, de nouveau, il n'osait plus monter. Et il avait recommencé d'éplucher ses longs bâtons d'osier. « Bonjour, père Anselme !» Le vieux répondit « Bonjour !» sans se retourner. « Je suis venu pour voir Éloi. » Le père Anselme leva ses petits yeux. Il eut un mouvement d'épaule. « Oh, c'est toi, Milou ? C'est moi, je viens voir le frérot. »« Oh, le mal est trop fort, Milou. Le pauvre ne peut pas avoir personne. Allez, merci d'être venu. Mais pour monter là-haut, c'est pas possible. Allez, maintenant, tu peux t'en retourner. » Et Milou répondit d'une voix ferme. « Non, il faut pourtant que je le voie. » « Mais puisque je te dis, Tu vois bien, moi-même, j'ose pas monter. Il est à la sueur, et d'un moment à l'autre. Mais justement, père Anselme, c'est pour cela qu'il faut que je le voie. Il y a quelque chose, voyez-vous, qu'il faut que je lui dise avant qu'il s'en aille. Vous entendez bien, père Anselme, il faut que je lui parle. Il le faut. Le vieux avait repris ses bâtons. Et sans répondre, il remet inexorablement la tête. Non, 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 non. C'est bon, dit Milou. Un escalier de bois montait de la cuisine aux chambres. Il s'en approcha et mit la main sur la rampe. Le père Anselme se dressa, frémissant. « Où vas-tu ? » « Je monte voir Éloi. » « Mais je t'ai dit que ce n'est pas possible. Ne t'entête pas, Milou. Sinon, il arrivera un malheur. » Milou resta sur l'escalier avec une résolution immuable. « Mais le malheur, père Anselme, ce serait que je ne puisse pas le voir. Oui, un grand malheur, car s'il s'en allait comme ça, en croyant les mauvaises choses qu'il a dans la tête, ce serait trop terrible. Quoi qu'il doive arriver, je monte. » Et il commença de monter. Cette fois, le vieux prit peur et d'un bond, il se jeta sur lui. « Non, tu ne diras pas, je te défends. » « Laissez-moi, laissez-moi où je frappe. Mais je te défends, misérable assassin !» Il s'accrochait à lui, il le serrait dans les taux de ses vieilles mains rudes. Milou se cramponnait à la rampe et appelait « Éloi, Éloi !»« Tais-toi !» bavait le vieux. « Éloi, Éloi, tu m'entends? C'est moi, ton frère. Ils veulent m'empêcher, Éloi !» Suivit entre les deux hommes une lutte courte et terrible. Le vieux faiblissait, lâchait peu à peu son étreinte. D'un suprême effort, Milou se dégagea et s'élança dans l'escalier. Alors la porte d'en haut s'ouvrit lentement, et la vieille Audiberthe parut, dont le geste rigide arrêta les deux hommes. « C'est pas du bruit qu'il faut ici. » Ce sont des prières et des cierges des morts.